Mon Dieu, tu viens au-devant de moi dans ta bonté et dans ta beauté. Le matin, je tourne mon regard vers toi. J'étais endormie et tu veillais sur moi. Je me réveille et te voici encore avec moi. Rassasie-moi de ton amour au matin et je vivrai toute cette journée dans la joie et la confiance. Apprends-moi à vivre chaque heure dans la conscience de ta présence, à l'écoute de ta voix. Avec joie, je me lève pour te servir, sans agitation et sans paresse, pour t'offrir cette journée que tu me donnes. Mes temps sont dans ta main, ô Dieu. Tout mon travail est pour toi. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte ce matin dans notre temple d'Annecy. Nous chantons les spontanés qui se trouvent dans le petit feuillet au début des recueils et également les deux cantiques dont les numéros sont affichés. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané.
Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir.
Restons debout pour louer Dieu. Louange à toi, Dieu éternel. De la glaise originelle, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel. Amen. Et nous poursuivons notre louange en chantant le cantique « Chantons de joie vers le Seigneur », le 41-06 à la page 568. Alors, ce n'est pas un cantique qu'on a l'habitude de chanter, mais je trouvais que les paroles étaient fort à propos. Et vous allez voir dans la mélodie, on reconnaît quand même des mélodies habituelles. Donc, Andrea va nous le jouer en entier une fois et ensuite on chante.
Chantons le nom.
À vous asseoir. J'aime vraiment beaucoup ces paroles, hein. C'est de belles paroles. Parfois dans des cantiques, on aime bien la mélodie, puis il y a certaines paroles qui conviennent moins, mais voilà, je trouve que ces paroles-là sont très belles. Je vous invite à nous unir dans la prière de repentance avec quelques mots de Eti Elisoum, qui était une jeune femme juive mystique, qui a tenu un journal pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est morte à 29 ans en camp de concentration. Écoutons ce qu'elle écrit de la présence de Dieu en elle. « Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstrue ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre à jour. Il y a des gens, je suppose, qui prient les yeux levés vers le ciel. Ceux-là cherchent Dieu en dehors d'eux. Il en est d'autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains. Je pense que ceux-ci cherchent Dieu en eux-mêmes. Prions. Oui, Seigneur, comme dans ces paroles d'Eti Elisoum, nous savons que tu es là. Mais pourtant, il arrive que tu nous sembles loin, profond, caché, secret. Et alors nous ne te sentons plus en nous. Aide-nous, Seigneur, à dégager tout ce qui fait obstacle à ta présence en nous, à ton amour, à ta lumière, à ta paix pour nos corps, nos cœurs et nos vies. Amen. Nous restons assis pour chanter le spontané Jésus-Christ, lumière intérieure.
Jésus le Christ. Donne-moi d'accueillir.
Un jour, les apôtres demandent à Jésus « Augmente en nous la foi ». La réponse qu'ils reçoivent doit les surprendre, car c'est la parabole du serviteur inutile. Un homme a travaillé toute la journée dans les champs de son maître et le soir venu, reste pour le servir à table. Ce serviteur est décrit comme inutile, ordinaire, quelconque. Il n'a fait que ce qu'il devait. Cette parabole nous dit que devant Dieu, il n'y a pas de bon ou de mauvais serviteur. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. Cela signifie que la valeur de notre vie ne tient pas à ce que nous faisons pour Dieu, mais à ce que Dieu fait pour nous. Tous, nous sommes aimés de Dieu, quoi que nous fassions. Frères et sœurs, que l'amour de Dieu nous relève, que son pardon nous donne la vie, pour que nous devenions des serviteurs quelconques mais heureux, inutiles mais fidèles, ordinaires mais libres. Chantons notre reconnaissance. Tu consoles, tu pardonnes. Je vous invite à vous lever.
Tu consoles, tu pardonnes.
Et pour ce temps liturgique où nous écoutons ce que Dieu veut pour nous, quelques mots encore de Eti Elisoum. Travailler à soi-même, ce n'est pas faire preuve d'individualisme. Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi-même. Extirpe tout sentiment de haine, pour que quelque race ou quelque peuple que ce soit, ou bien domine cette haine et la change en autre chose, peut-être même à la longue en amour. Oui, je le crois, c'est la seule solution. Que l'amour soit la victoire. Chantons.
Transmet la nouvelle aux générations afin qu'elle l'enseigne à ceux qui naîtront. Ce que nous avons vu et connu,
je vous invite à vous asseoir. Avant de nous mettre à l'écoute pour les textes bibliques qui nous sont proposés ce matin, nous prions. Mon Dieu, accorde-moi de savoir m'arrêter pour reprendre mon souffle. Garde-moi d'être prisonnier d'une marche en avant qui ne serait qu'une course effrénée dans laquelle je perds mon souffle, dans laquelle je me perds, dans laquelle je te perds. Mon Dieu, enracine-moi dans le souffle de ton esprit quand je suis essoufflée, que ma respiration prenne le rythme de ton souffle divin. Quand la peur me paralyse et me coupe le souffle, que le vent de ton esprit vienne balayer mes angoisses et qu'il déploie en moi la voile de la confiance. Oui, souffle mon Dieu, je m'ouvre à toi. Amen. Nous partageons ce matin deux textes des lectures écuméniques. Le premier dans le livre du Deutéronome, dans le Premier Testament, au chapitre 18, les versets 15 à 18. Moïse parle. Le Seigneur Dieu vous enverra un prophète comme moi. Celui-ci fera partie de votre peuple et c'est lui que vous écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Vous avez dit : Nous ne voulons plus entendre directement la voix du Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Et le Seigneur m'a dit : Ils ont raison de parler ainsi. Je leur enverrai un prophète comme toi. Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui demanderai. Et la lecture d'Évangile est dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples arrivent à la ville de Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entre dans la maison de prière et se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'enseigne pas comme les maîtres de la loi. Il le fait avec l'autorité que Dieu lui donne. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière. Il se met à crier : Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux ? Est-ce que tu es venu pour notre malheur ? Je sais bien qui tu es. Tu es le saint que Dieu a envoyé. Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant : Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri. Tous sont très étonnés et se demandent entre eux : Qu'est-ce qui se passe ? Cet homme enseigne d'une façon nouvelle et avec assurance. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Alors les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Et nous pouvons rester assis pour chanter le spontané des lectures « Écoute, entends la voix de Dieu ». Les lectures écuméniques nous proposent donc de débuter l'année 2021 par un parcours dans l'évangile de Marc. Cet évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, est celui qui a été écrit le plus tôt des quatre évangiles, environ en l'an 70 après Jésus-Christ, ce qui fait tout de même plus de 40 ans après sa mort. Lorsque j'évoque cela avec les jeunes au catéchisme, l'écart entre ce qui s'est passé et les récits qui ont été mis par écrit, ils en sont toujours très étonnés. Habitués de la culture de l'instant et des nouvelles en direct, apprendre que les évangiles, récits de la vie de Jésus, ont été écrits des dizaines d'années après sa mort, est pour eux très surprenant. Pourtant, cela n'enlève en rien l'authenticité, la véracité de ces écrits, comme parole pour nos vies. Ce sont des écoles de pensée, ce que l'on appelle les transmissions orales, qui ont porté ces récits avant de les mettre sur papier, pour qu'ils soient partagés avec le plus grand nombre. Nous sommes donc chez Marc, au premier chapitre. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, puis tenté dans le désert. Il est parti en Galilée annoncer la bonne nouvelle et il a appelé ses premiers disciples. C'est le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du repos pour les Juifs, le jour saint consacré à l'Éternel. C'est donc avec ses premiers disciples, Simon, André, Jacques et Jean, que Jésus arrive à Capernaum, un lieu proche du lac de Galilée. C'est un village où Jésus retournera plusieurs fois dans son ministère et où il guérira différentes personnes, le serviteur du centurion, la mère de Pierre, le démoniaque, le paralytique, le fils d'un officier et encore de nombreux autres malades. En hébreu, Capharnaüm signifie « village de Naoum » et ce mot « Naoum » veut dire « consolation ». Et c'est dans le lieu de prière, la synagogue, et en ce jour saint que Jésus enseigne. Ce mot « enseigner » est employé 12 fois dans cet évangile de la part de Jésus, ou alors le rédacteur met en avant sa pleine fonction d'enseignant. Ses paroles et sa façon d'enseigner sont reçues, vous l'avez entendu, avec beaucoup d'étonnement. Le texte ne donne pas plus de précision. En tous les cas, Jésus n'enseignait pas de la même manière que les maîtres de la loi. Et puis, Jésus n'enseigne pas avec l'autorité de la connaissance, nous dit l'Évangile, mais par l'autorité que Dieu lui donne. C'est le rédacteur qui précise cela. Car comment reconnaître une personne qui parle au nom de Dieu, de celle qui aura simplement une aura particulière, un charisme, et qui va parler en son propre nom? Il nous arrive dans nos vies d'être séduits par tel ou tel orateur. Une personne qui présente bien, qui dégage quelque chose, qui a du charisme. Mais tout ceci reste fragile. Nous le savons. Mais comment discerner dans la sagesse qu'une personne enseigne au nom de Dieu? Bien sûr, c'est délicat. Toutefois, nous pouvons nous accrocher à une reconnaissance ecclésiale, par exemple. Et surtout, bien plus qu'au paraître, à la source et au contenu des paroles. Voilà quelle pourrait être une ligne de discernement. Si les paroles entendues conduisent vers la vie, vers l'accueil, vers le pardon, vers l'espérance, elles sont le souffle de Dieu. Si au contraire, les paroles pointent le rejet, l'enfermement, le jugement, l'exclusion, la peur, elles restent humaines. La semaine dernière, nous avons rencontré les jeunes du groupe de jeunes en visio, les lycéens et les étudiants, et nous avons partagé ces grandes questions. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Comment savoir les distinguer parfois? Comment savoir ce que Dieu veut pour moi? Grandes questions, immenses questions, dont nous n'avons pas vraiment de réponse finale, mais qu'il est heureux de se poser ensemble. Dans notre texte biblique, Jésus parle donc d'autorité et au nom de Dieu. Nous assistons alors à un épisode étonnant que nous pourrions appeler une séance d'exorcisme. Étonnant car nous savons que la tradition religieuse de l'époque ne racontait pas ces récits populaires. Ces récits populaires de guérison qui étaient assimilés à de la magie, loin de la pratique voulue pour louer Dieu. Pourtant ici, le rédacteur de Marc choisit de raconter cet épisode, car Jésus guérit, et il le fait au nom du Dieu d'Israël. Un homme donc avec un esprit mauvais, nous dit le texte. En grec, on pourrait traduire un esprit sale. Pour bien montrer cette opposition avec le lieu saint, la synagogue où cet homme entre. Et le jour où cela se passe, souvenez-vous, c'est le jour du sabbat, qui est aussi un jour de pureté. Cet homme donc impur entre dans un lieu pur, un jour pur. Et là, les sujets d'étonnement se poursuivent. Cet homme qui n'aurait jamais dû entrer est là et questionne Jésus en utilisant la première personne du pluriel. « Qu'est-ce que tu nous veux ? Es-tu venu pour notre malheur ?» Or, dans la synagogue, il y a Jésus avec ses disciples et cet homme et les maîtres de la loi. Un peu comme si l'homme incluait dans le « nous » les maîtres de la loi avec lui. Jésus vient bouleverser l'autorité des esprits mauvais, comme celle des maîtres qui se disent purs. Aux côtés de Jésus, cela nous dit aussi que tout le monde a sa place. Les maîtres, les reconnus, mais aussi les pauvres et les rejetés. Pour les purs comme pour les impurs, Jésus vient tout retourner, tout chambouler. Il invite au demi-tour bien connu de la conversion. Dès le début de l'évangile, Marc annonce par cette histoire la nouveauté, le bouleversement de la part de cet homme envoyé de Dieu. Désormais, signifie-t-il, pour celui qui reçoit cette autorité dans sa vie, rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est un peu comme si l'homme possédé le savait déjà, qu'il en était déjà convaincu. Parce qu'après les questions accusatrices, souvenez-vous, c'est encore étonnant. Il professe sa foi. « Je sais bien qui tu es le saint que Dieu a envoyé. » Jésus ne reprend pas ces mots à son compte, mais menace l'esprit. « Tais-toi et sors de cet homme. » C'est ici le même mot grec, « tais-toi », qui sera utilisé plus tard dans l'évangile, dans le récit de la tempête apaisée. Quand Jésus menace les flots tempétueux, silence, c'est le même mot en grec. Jésus, c'est celui qui fait taire nos voix mauvaises et nos vents contraires. Dans nos intérieurs et nos vies trop agitées, il nous offre la paix. Je partage souvent ce récit de la tempête apaisée avec les familles endeuillées. Dieu n'empêche pas les périodes tourmentées de nos vies. Mais si nous l'appelons au cœur de nos tourments, il est celui qui impose le silence et nous donne sa paix. Dans notre texte, l'esprit mauvais plie et sort de l'homme. Et tous sont très étonnés. Personne ne s'y trompe. Les maîtres de la loi, l'homme comme les disciples, restent silencieux. Et en conclut, cet homme enseigne d'une façon nouvelle et commande aux esprits mauvais qui même lui obéissent. En Jésus, l'exorcisme n'est plus de la magie, c'est l'autorité de Dieu qui guérit et bouleverse chacun, les purs comme les impurs. J'utilise souvent l'image de la prière, je vous l'avais déjà partagée, comme une force pour invoquer la présence de Dieu en nous qui impose le silence à nos voix médisantes, et qui fait sortir de nous tout ce qui nous encombre. En image, je prends celle d'un pot rempli d'eau qui nous représente, et la main de Dieu comme notre poing qui viendrait en nous et ferait sortir tout ce qui nous écrase et nous encombre, la peur, la culpabilité, la violence, et viendrait nous libérer. Oui, ce texte présente Jésus comme puissance de vie, prophète écouté, comme l'écrit le Deutéronome, les paroles de Dieu sont dans sa bouche. Le Christ est là pour nous restaurer quand nous en avons besoin, pour nous bousculer quand nous nous pensons bien installés. Il vient apporter la consolation à nos Capharnaüm intérieurs. Comme à la fin de cette histoire, où tous ne peuvent garder pour eux ce qu'ils viennent de vivre et vont aller parler de Jésus autour d'eux, aujourd'hui, par la Bible et la rencontre que nous vivons avec lui, nous sommes les témoins heureux de cette puissance. Nous sommes appelés à en vivre et à en témoigner autour de nous. Les lieux en sont nombreux, et même aujourd'hui où nos libertés sont restreintes, la parole doit toujours rayonner pour nous-mêmes, dans notre famille, avec nos amis, nos voisins, dans la rue, au travail, avec les associations engagées et au loin. Tel ce couple de paroissiens qui cuisine de la soupe toutes les semaines pour une association locale d'aide aux sans-abri. Ou une autre qui accompagne pour ses devoirs un enfant en difficulté. Ou encore celui qui donne du temps chaque jour pour son père malade. Ou celle qui prie pour toutes les personnes fatiguées de notre communauté. À chacun d'œuvrer là où il est, avec la force qui lui est donnée, assuré de la puissance de Dieu pour lui et pour le monde. Et je termine en filant la métaphore de l'eau entre la tempête apaisée et la cruche d'eau avec un témoignage de Daniel Bourguet, qui est un frère protestant, un témoignage sur la prière. La prière, mon frère, ma sœur, c'est une aventure étonnante qui te fait quitter le port douillet de certaines certitudes pour te lancer sur l'océan infini de l'amour de Dieu. Il t'appartient de hisser la voile, de larguer les amarres, de lever l'ancre, de te mettre à la barre, de t'exposer au vent sur les eaux profondes. Le vent, c'est le souffle de Dieu. Sans lui, tu n'avanceras pas. C'est lui qui t'enveloppe et te prend. C'est lui qui t'enlace et t'expose. C'est lui qui t'entraîne loin du port et t'isole. Mais n'aie pas peur. Il est maître du vent, des courants et des flots. L'océan repose sur lui. Et puis, quand tu découvriras que ta fragile embarcation n'a laissé derrière elle aucune trace pour retourner au port, il te sera donné de découvrir, émerveillé, une main tendue, tenant la barre avec toi. Il est le Christ. Et alors tu iras jusqu'au bout. Va, ma sœur, va, mon frère. Le vent se lève, la vie t'est donnée. Amen. Tu me veux à ton service, nous chantons le cantique 4407 à la page 662. Nous nous levons. À rester debout pour partager notre foi et je vous invite à partager la confession de foi que j'avais écrite au tout début de mon ministère quand je me suis présentée devant ce qu'on appelle la commission des ministères pour être pasteur. Nous devions écrire une confession de foi. Je l'ai retrouvée dans mes papiers, elle date de l'an 2000. Ça commence à dater un petit peu. Du fond de ma nuit obscure, je crois que toi seul peux faire lever le jour. Du fond de ma nuit perdue, je crois que toi seul peux me faire naître de nouveau. Du fond de ma nuit enchaînée, je crois que toi seul peux me rendre par ton esprit libre comme le vent. Du fond de ma nuit incertaine, je crois que je te comprendrai un jour. Du fond de ma nuit espérance, je crois que tu as donné ton Fils unique pour moi. Du fond de ma nuit éclairée, je crois que toi seul donnes la vie éternelle. Du fond de ma nuit aveuglée, je crie vers toi, Seigneur. Aide-moi à croire. Toi seul peux m'y aider. Je le veux, je le crois. Amen. Chaque jour de ma vie, nous chantons le spontané de la confession de foi. Et c'est ce verset du Coëlète, de l'Ecclésiaste, qui nous guide dans le temps de l'offrande. « Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras. » Et maintenant, un verset des Colossiens, « Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Voici le moment de l'offrande. Loué sois-tu, Dieu éternel, pour chaque don que tu nous permets de faire jour après jour. Le don de notre temps, de notre amour, de notre argent. Amen. Un grand merci à Andrea qui nous accompagne à l'orgue ce matin, avec sa petite famille qui est présente en plus. Merci à Dominique et Frédéric qui sont là pour l'accueil. Hier, nous nous sommes retrouvés pour le conseil de consistoire en visio. Alors, le consistoire, ce sont les 7 paroisses Savoie, Haute-Savoie et 1 qui se rassemblent et nous faisons des choses ensemble. Nous partageons nos joies, nos difficultés, nous avons partagé ce que nous avons fait autour de Noël. Voilà, cette période pas évidente avec les cultes, avec la jauge, voilà, tous les projets. Donc, nous avons pris le temps d'écouter les nouvelles des uns des autres. Tout à l'heure, le groupe adulte Pain, Parole et Partage a décidé de se retrouver à Beauregard, donc au Grand Air, avec les bonnets, les gants, les luges. Donc, voilà, c'est une façon de rester en lien. Mais comme ici, nous ne pouvons faire aucune rencontre sauf les cultes, voilà, chacun essaye de rivaliser d'idées pour quand même passer des moments ensemble. La semaine prochaine, mardi, le conseil presbytéral se retrouve en visio. Le conseil, cette année, doit organiser l'année prochaine sans pasteur, qui est une année quand même un peu compliquée à mettre en place. Donc le conseil travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Et puis également sur l'arrivée d'un nouveau pasteur. Donc voilà comment on va s'y prendre pour accueillir quelqu'un, qu'est-ce qu'on aimerait comme pasteur, qu'est-ce qu'on aimerait que la personne puisse continuer à faire ou à faire autrement. Voilà, donc le conseil en ce moment a beaucoup de travail autour de ces grandes questions. Mercredi, le groupe de prière continue à se réunir à distance, chacun depuis chez soi à 18h. Et dimanche prochain, le culte, alors en attente des décisions bien sûr, mais on espère qu'on pourra encore gagner peut-être une semaine. Bon, voilà, on est suspendu aux décisions, mais si on peut, on se retrouve ici au culte dimanche prochain. On peut être jusqu'à 50, et là, vous voyez, on est 25 ce matin. Alors, dites autour de vous, aux paroissiens, aux amis, de venir, qu'il n'ait pas peur de nous rejoindre. Dimanche dernier, c'était le baptême de Mona, qui est là aujourd'hui avec nous, avec sa marraine, et on était un peu plus nombreux. J'avais envoyé des mails en disant « venez, venez ». Voilà, donc n'hésitez pas à venir, il y a de la place. Encore deux annonces. À la sortie, j'ai récupéré les nouveaux calendriers scouts de, vous savez, notre groupe local. Alors ça, c'est le mouvement national qui fait chaque année des calendriers. Ils sont au prix de 5 euros. Donc si vous souhaitez, vous venez me voir. Et à l'intérieur, il y a un bulletin de soutien pour le mouvement au niveau national que vous pouvez renvoyer en le remplissant. Voilà. Donc ça permet de soutenir notre groupe local, soutenir les responsables qui sont tous bénévoles pour les enfants. Et puis, dernière chose, un colloque écuménique est organisé du 22 au 24 février. Normalement, vous avez reçu le mail de Francine qui vous expliquait ce colloque autour de la question de l'Église verte, c'est-à-dire comment, en tant qu'Église, on peut participer à la préservation de la création, avec différents intervenants sur les 3 jours. Voilà, si vous avez des questions, ça sera tout en visio, vous pouvez venir me voir, je vous transférerai le mail si vous ne l'avez pas reçu. Je vous invite à nous unir dans la prière les uns pour les autres. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons aujourd'hui te parler de la terre, de sa violence et de ses misères. Que tous puissent te reconnaître comme Père et qu'ils se découvrent comme des sœurs et des frères. Qu'ils aient à cœur de te laisser de la place dans leur vie afin que ton nom soit confessé, reconnu et sanctifié. Que soient posés des gestes de réconciliation et de paix, et qu'ils deviennent signes de ton règne qui vient. Que ta volonté ne demeure pas de belles paroles qu'on trouve dans les Écritures, mais qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, des hommes, des femmes et des enfants meurent de faim, alors que d'autres sont repus. Apprends-nous à partager le pain que tu nous donnes. Aujourd'hui, des hommes, des femmes et des enfants vivent dans la violence et l'oppression. Nous te prions pour la réconciliation. Donne aux offensés le courage du pardon, et toi seul peux le faire pour que les offenseurs se sachent pardonner. Aujourd'hui, des hommes et des femmes sont soumis à toutes sortes de tentations. Tentation du pouvoir qui oppresse, de la peur qui isole. Délivre-nous de la tentation. Aujourd'hui, des hommes, des femmes et des enfants sont victimes du mal, de la maladie, de la terrible crise planétaire que nous traversons, de la solitude, de la peur. Délivre-nous du mal. Seigneur, c'est vers toi que monte notre prière, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et nous disons ensemble la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour recevoir l'envoi et la bénédiction, je vous invite à vous lever. Un envoi à partir du verset du livre du Deutéronome au chapitre 30. Puisqu'il est encore temps de se souhaiter une bonne année, je vous souhaite pour l'année qui s'ouvre, non pas de réussir dans toutes vos entreprises, mais de recevoir et d'accueillir dans votre cœur et dans votre vie, jour après jour et pas à pas, l'amour éternel et infini qui donne sens à l'existence. Je vous souhaite non pas de ne subir aucun échec, mais d'accueillir comme un don immérité la force qui permet de rester debout malgré les lourds fardeaux. Je vous souhaite non d'avoir réponse à toutes les questions, mais de savoir recevoir les interrogations des autres, de porter en vous leurs peines, leurs soucis, leurs conflits résolus, pour être auprès d'eux une sœur, un frère solidaire, porteur de partage et de paix. Que la grâce de Dieu notre Père nous porte et nous accompagne chaque jour. Que l'amour de Jésus-Christ, le Fils, nous conduise et nous donne la vie chaque matin. Que la force de l'Esprit-Saint soit notre guide et notre marche, jour après jour et pas à pas. Allons dans la paix. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vous invite à chanter le dernier spontané en se partageant aux uns aux autres cette grâce de Dieu.